qui a beaucoup changé au fait dans ces courses par étapes, c'est la récupération après course. Parce que quand on fait juste une course, on s'en fiche un peu. Dès qu'on est arrivé, ben on discute, on s'en fout un peu de ce qu'on mange et ce qu'on boit. Enfin voilà. Alors que là, quand j'arrivais, la première chose que je faisais, c'était tout de suite boire, manger, me rhabiller, mettre du chaud. Je pensais tout de suite à la récupération, ce que je fais jamais d'habitude. J'étais pas trop motivée à prendre le départ parce que, comme tu le dis, c'était des conditions horribles avec la pluie, du vent au départ. Donc, je me dis bon, bah, t'excites pas, tu fais ton rythme et puis tu verras bien comment ça va. Donc, je suis vraiment seule dans le brouillard. Je fais ma course, je suis hyper concentrée sur les drapeaux parce que comme on voyait pas grand-chose, fallait surtout pas que je rate le sentier. Et après là, on arrivait dans une forêt qui était hyper boueuse, sinueuse, impossible à courir. Donc c'était en montée, impossible à dépasser aussi. C'était vraiment un petit sentier dans la forêt. Ils avaient juste coupé les arbres pour qu'on puisse passer. Et puis là, bah, Tovey me dépasse à fond la caisse. Et là, je me dis, waouh, bah, c'est vraiment un sacré morceau, quoi, un sacré numéro. Elle va hyper vite, bah, je la laisse aller, quoi. Je m'accroche, je pense même pas m'accrocher à elle. Il y a vraiment un vent, mais violent. J'ai jamais vu ça. Un vent qui souffle sur le côté, et je dois quasi m'accrocher, en fait, sur l'herbe avec les mains pour pas m'envoler.
Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Merci à tous pour vos messages d'encouragement quotidiens, c'est vraiment génial pour moi de voir cet engouement et cette communauté de passionnés de trail, de course à pied ou tout simplement de belles histoires s'agrandir jour après jour. N'hésitez pas à partager Course Épique autour de vous, sur les réseaux sociaux, à lui mettre le maximum d'étoiles sur Apple Podcast, cela aidera Course Épique à continuer de grandir, de se développer et continuer de recevoir des invités géniaux épisode après épisode. J'ai aujourd'hui l'immense plaisir et le privilège de recevoir Maude Matisse, la meilleure trailleuse du circuit mondial aujourd'hui. Maude va partager avec nous sa formidable aventure aux Açores il y a quelques semaines à l'occasion des 5 jours de course du Golden Trail Championship, réunion annuelle de ce que la planète trail compte de meilleurs athlètes. Maude va nous faire vivre cette course épique dans des conditions météo parfois effroyables et aussi ses passes d'armes, très amicales rassurez-vous, avec ses principales concurrentes alignées sur la course. Croyez-moi, vous allez passer un moment à la fois fort en émotion et très apaisant à l'écoute de cette grande championne et très belle personne qu'est Maude. Et tout comme moi, je suis certain que vous allez être touché par sa simplicité, sa spontanéité et sa coolitude. Vous l'aurez compris, j'ai passé un très beau moment à échanger avec elle sur ce Golden Trail Championship. Mais je ne vous en dis pas plus. Maude va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans ce 18e épisode de Course Épique, dans l'essoreuse des Açores.
Bienvenue sur Course Épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute!
Bonjour Maude, je suis ravi de te recevoir dans ce 18e épisode de Course Épique, un 18e épisode en âge podcast. Je ne sais pas si ça correspond au passage à l'âge adulte. En tout cas, j'ai bien prévu de garder mes yeux et mes oreilles d'enfant pour vivre aujourd'hui avec toi ta course épique. Comment vas-tu Maude?
Ben bonjour, ça va très bien. Merci de m'accueillir pour ce podcast.
Je suis ravi. Avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas?
Oui, alors j'habite à Ollon, qui est un petit village dans le Chablais vaudois. Donc, je suis à la frontière entre le Valais et le canton de Vaud en Suisse. J'ai 33 ans, mariée, 2 enfants. Et puis voilà, bah, je fais du sport professionnellement.
Un petit peu de sport, effectivement. Et justement, est-ce que tu pourrais nous parler de ton rapport au sport et de par quoi tu as commencé quand tu étais plus jeune et ado? À quel moment le sport a fait irruption dans ta vie?
Oui, alors j'ai toujours vécu dans une, bah, ma famille est sportive, hein, donc on a baigné en fait dans l'athlétisme, donc sur les stades plutôt. J'ai commencé à 9 ans parce que ma maman elle était entraîneur dans un club et bah, j'ai adoré, donc voilà, j'ai continué jusqu'à mes 18 ans, mais j'ai fait, j'étais pas, on va dire que j'ai fait un peu tout parce que j'étais pas bonne dans une discipline, donc tout ce qui est discipline technique, hein, soit en longueur, soit en hauteur, lancer de la barre, enfin lancer du poids,
soit la perche même,
soit la perche, effectivement. Donc ça, soit la perche, j'ai découvert à mes 13 ans, et puis c'est là que j'ai eu un peu plus de bons résultats, et puis J'ai essayé un peu de percer là-dedans. Puis à 18 ans, en fait, j'en avais marre d'être sur ces stades. Et puis j'avais envie de voir des autres sports. Et puis c'était plutôt les sports d'endurance qui m'attiraient. Et là, j'ai rencontré mon mari qui faisait de la course à pied et du ski alpinisme. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire ces deux sports. Et j'ai totalement arrêté l'athlétisme.
Donc ça n'a pas été un coup de foot, ça a été progressif, ça a été une évolution progressive.
Tout à fait. Et puis voilà, après j'ai commencé cette course la course à pied et le ski alpinisme en me disant que j'allais plus jamais mettre de dossard, que la compétition c'était fini, j'en avais ras le bol. Et puis voilà, de fil en aiguille, comme vous le savez tous, voilà, on se prend au jeu, t'as qu'on met un dossard, on a envie de progresser, après les résultats viennent, et puis c'est un cercle vicieux positif. Et puis, c'est ce qui fait que aujourd'hui, je suis à fond dans le sport avec des bons résultats.
Et je pense que la course à pied, c'est effectivement typiquement le type de sport où il ne faut jamais dire jamais. On se laisse assez facilement griser. On a toujours envie de repousser les limites, quel que soit son niveau d'ailleurs. Mais on a toujours envie d'aller un cran plus loin pour se dépasser. Et on va parler de ton palmarès, Maud, qui est évidemment étourdissant, que ce soit en trail, en course de montagne ou sur route. Tu as aussi en ski alpiniste, tu as brillé. Mais voilà, pour citer en tout cas quelques-unes de tes références, tu es triple championne d'Europe de course en montagne, vice-championne du monde de la discipline. Tu as un record personnel sur marathon de 2h30 et quelques secondes, ce qui est évidemment extrêmement impressionnant. Tu as gagné le redoutable Pikes Peak Marathon dans le Colorado. Tu détiens le meilleur chrono de l'histoire sur Sirzinal dans la catégorie féminine et tu l'as remporté 2 fois. Bref, la liste est longue et surtout sacrément impressionnante. Est-ce que tu pourrais nous parler de une ou deux courses qui ont vraiment eu un impact majeur pour toi et qui ont peut-être fait basculer ta vie un cran au-dessus ou en tout cas fait changer la donne un petit peu pour toi, que ce soit peut-être d'un point de vue personnel ou tout simplement sportif? Est-ce qu'il y a eu un ou deux étapes vraiment clés dans toutes ces performances que t'as connues jusqu'ici?
Oui, alors je pourrais dire mon premier titre de championne d'Europe en Slovénie en 2017. Donc je revenais de ma deuxième grossesse. Et je savais pas du tout où j'en étais au niveau au niveau performance, au niveau forme. Et là de gagner ces championnats d'Europe, ça m'a vraiment fait prendre conscience du niveau que j'avais. Et puis c'est aussi à ce moment-là que j'ai vraiment décidé de me consacrer uniquement à la course à pied et puis de laisser tomber le ski alpinisme pour essayer d'aller encore plus loin, gagner encore plus de choses. Et puis j'ai eu cette idée aussi de ma qualification pour les Jeux Olympiques sur marathon. Donc début 2018, j'ai commencé un entraînement spécifique pour le marathon. Donc on peut vraiment dire que c'est là, à partir de cette année 2017, que j'ai commencé à poser des jalons vraiment pour ma vie professionnelle, enfin sportive professionnelle. C'est aussi à ce moment-là que j'ai eu assez de sponsors pour pouvoir en vivre et que depuis 2018, je peux vraiment dire que je peux en vivre.
Et les JO de Tokyo, si on en parle, est-ce que c'est toujours un objectif pour toi d'atteindre les minima qui sont de 2h30 justement et toi, tu es quelques secondes au-dessus, j'en parlais tout à l'heure. Est-ce que c'est encore comme les JO ont été repoussés d'une année? Est-ce que aussi c'est l'occasion pour toi de toujours tenter la chance de gagner ta qualification pour le Japon?
Oui, alors c'est toujours un objectif. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau qualification, je sais pas trop comment ça va se passer parce qu'il y a pas de course, donc il y a un temps limite. Mais si on peut pas courir, voilà. Je sais que ça va être peut-être un peu plus difficile cette année parce que il y a une Suissesse. L'année passée, j'étais la meilleure Suissesse, donc j'avais quand même de bonnes chances d'y aller. Cette année, il y en a une qui est en train de devenir très forte. Et une qui va peut-être être naturalisée, une Éthiopienne qui va être naturalisée Suissesse. Donc voilà, peut-être un peu moins de chance, mais c'est toujours l'objectif. Puis on verra comment les qualifications vont se faire.
Est-ce que tu as aujourd'hui un format de course de prédilection ou est-ce que justement, là, comme on l'écoute un petit peu à travers tes mots, l'idée c'est de varier aussi les plaisirs et les distances et les formats, les destinations, de faire un savant mélange de tout ça pour trouver ton équilibre?
Alors j'aime varier, effectivement, j'aime me lancer des challenges. Si je fais trop de montagne, et j'aime me challenger sur route. Si je fais trop de route, bon ça c'est rare, mais trop de route, j'aime bien faire la montagne. J'aime bien des formats courts comme des kilomètres verticaux. J'aime aussi faire du plus long. Alors c'est vrai que j'aime bien quand ça tourne autour de 20-30 kilomètres en montagne avec entre 1500 et 2000 mètres dénivelé. Ça c'est ce que je préfère. Mais j'aime beaucoup varier parce que je me lasse assez vite au niveau des entraînements.
C'est le moment de la question hautement philosophique du podcast. Je pense qu'il n'y aura pas plus philosophique que ça, mais est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu cours, Maud?
Ça, c'est toujours la bonne question.
Ouais,
je pense que c'est un mélange. C'est vrai que Bah, je me rends compte que j'aime, au fait, j'aime sentir mon corps travailler. J'aime transpirer, j'aime entendre mon cœur qui bat. J'aime avoir fait j'aime cette sensation d'effort. Voilà, ça j'en ai besoin et j'en ai encore plus. J'ai vraiment, c'est ce qui m'a le plus manqué, au fait, quand on était en période de confinement ou quand on pouvait pas trop bouger ou quand je suis en période de pause, c'est ce qui me manque le plus. Après, ça me permet aussi de m'évader, voilà, d'être juste avec moi-même, parce que ben, les journées, elles sont quand même, il y a beaucoup d'excitation avec les enfants. J'ai des enfants en bas âge, et là, c'est mon moment à moi où je peux réfléchir, où je suis juste avec moi, et voilà, ça me fait du bien. Et puis je cours aussi, ben, depuis 2018 pour gagner ma vie. Avant, c'était pas du tout, voilà, j'y pensais pas du tout. Là, des fois, quand j'ai pas trop la motivation, bah, je me dis, bah, voilà, c'est ton métier, tu y vas. Et puis après, bah, ouais, c'est comme tout le monde, quoi. Tout le monde se lève le matin pour aller travailler.
Il y a des jours, c'est un peu plus simple que d'autres, mais on y va de toute façon.
Oui, tout à fait.
Le moment est venu de se regarder dans le miroir, Maude. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes points forts et de tes éventuels points d'amélioration, en tout cas les choses que tu rechignes peut-être un peu plus à faire, notamment dans les phases de préparation? Est-ce qu'il y a des exercices qui sont un plaisir pour toi et dans lesquels tu as l'impression que naturellement tu es très doué, et puis d'autres sur lesquels c'est un peu plus compliqué pour toi de te mettre à l'ouvrage?
Oui. Alors, on va commencer par les points forts. Je pense que je suis quelqu'un qui est assez, qui a pas mal de musculature. Je travaille beaucoup tout ce qui est gainage, renforcement musculaire. Là, toute l'année, j'ai fait des sessions. Enfin, je faisais 3 fois par semaine, 30 à 45 minutes de gainage. Et puis, bah, j'ai quand même, au niveau de mon corps, enfin. J'ai un bon rapport poids-puissance et c'est pour ça que j'arrive à aller vite dans les montées, je pense, hein. Et puis je suis quelqu'un qui relativise pas mal. Enfin, quand j'ai pas mal de pression, quand l'entraînement ça va pas, ou quand c'est une période qui, ouais, où il y a beaucoup de pression au niveau média aussi, je suis quelqu'un qui prend, ouais, assez à la légère, entre guillemets, et puis me dire bon ben. Oui, c'est ton métier, oui, c'est le sport et tout, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Et puis si ça va pas, eh ben c'est pas grave, t'as ta famille. Je passe vite à autre chose. Aussi, notamment après les entraînements, ben je pense plus à l'entraînement. Je fais ma vie, enfin je fais ma journée, j'ai les enfants, j'ai d'autres activités et puis j'y pense pas. Donc ça, c'est peut-être ce qui fait ma force. Après, dans les points faibles, ben c'est sûr que je suis pas très, enfin tout ce qui est descente, technique, j'arrive pas bien à lire le terrain. Donc des fois je prends des rallonges comme voilà et ouais, des fois j'en ris quoi parce que je me fais dépasser, je dis mais je suis nulle, j'ai pas vu le petit chemin qui coupait, voilà, donc ça c'est quelque chose que je dois beaucoup, enfin que je dois améliorer.
Et que tu travailles spécifiquement?
Alors non, je travaille, oui, enfin oui et non. Cette année j'ai travaillé un petit peu pour certaines courses comme je me semble pas c'est pas cette année, l'année passée pour pas expliquer. Et puis quand je sais qu'il y aura pas mal de descentes techniques, j'essaye de faire des de d'allonger un peu puis de faire des entraînements en guillemets de vitesse mais en descente, mais j'en fais pas beaucoup quoi. C'est vraiment ouais, si j'en fais 5 6 dans l'année, c'est avant l'objectif, c'est déjà beaucoup. Et puis je suis quelqu'un qui aime pas faire tout ce qui est VMA court, tout ce qui est vraiment les entraînements de vitesse pure. Ça, j'ai beaucoup de peine. Déjà, l'entraînement, enfin, dès que je sais que j'ai cet entraînement, bah, je suis de la mauvaise humeur, quoi.
Et aujourd'hui, tu bénéficies d'un encadrement, en fait, t'as des entraîneurs autour de toi, ou est-ce que tu es relativement autonome dans la gestion justement de tes efforts et tes différents entraînements?
Alors, j'ai un entraîneur depuis 2017. C'était justement pour le marathon, avec cette idée de marathon. Et puis, pour voir autre chose, parce que j'avais l'impression de tourner un peu en rond, hein. C'est quand on est seul avec soi-même, on fait toujours un peu le même genre d'exercice ou le même genre d'entraînement. J'avais envie de voir autre chose. Donc là, j'ai mon entraîneur depuis 2017. Mais je me connais assez bien aussi. Et puis, il y a des périodes où il me fait pas le plan d'entraînement. Et puis, il me dit, ben, vas-y, fais comme tu le sens. Je crois que tu te sens assez bien, quoi. Donc voilà, on va
Et
dire que globalement, j'ai un entraîneur quand même.
tu vas justement chercher peut-être de la fraîcheur dans la diversité des entraînements que tu vas faire. Il y a la course à pied, bien sûr, mais je pense qu'il y a aussi du vélo elliptique, du ski alpinisme, du ski roue, peut-être qui sont aussi d'autres moyens pour toi d'aller garder l'envie intacte et peut-être aussi équilibrer les sollicitations de ton corps en justement variant le type d'exercice que tu peux être amené à faire.
Tout à fait. Alors, ça aussi, comme je disais avant, j'aime pas la monotonie et j'essaie de varier au maximum. Et donc, je fais tout ce que tu as dit, donc du vélo, donc à l'extérieur et à l'intérieur, du vélo elliptique, du ski roue, du ski alpinisme, de la musculation, et puis un petit peu de ski de fond l'hiver aussi. Et voilà.
Et comment coexistent aujourd'hui justement ces phases d'entraînement et ta vie de famille? Une semaine type pour toi, c'est quoi dans une phase normale d'entraînement?
Alors, depuis cette année, c'est un peu plus facile parce que bah, déjà, j'ai ma grande fille qui a 9 ans, elle va à l'école hein, donc tous les jours, donc c'est facile, je peux m'entraîner quand elle est à l'école. Et puis, j'ai encore mon petit qui a 4 ans, mais depuis cette année, il va 2 matinées par semaine à la garderie, donc ça me laisse déjà deux entraînements, enfin 2 matins où je peux m'entraîner de façon plus spécifique, enfin, en montagne ou bien un peu plus long. Alors une journée, on va dire une semaine type, souvent le lundi, je m'entraîne avant que les enfants se réveillent, donc à 5h du matin, de 5 à 6 ou 6h30, sur le tapis de course ou à l'extérieur. Et puis après, l'après-midi, des fois, je fais encore une séance de gainage, des fois pas, ça dépend, avec mon fils qui est à la maison. Le mardi, donc il est à la garderie le matin, donc là, je peux faire un entraînement comme je veux, montagne plutôt. Mercredi, j'ai ma maman qui peut venir à la maison garder le petit le temps que je m'entraîne. Souvent, c'est une heure et demie de course. Voilà. Le jeudi, il est aussi à la garderie, le petit. Donc là, je peux aussi faire un entraînement soit de vélo un peu plus long ou de nouveau de course à pied ou en montagne. Et puis le vendredi, je m'entraînais avec lui, enfin avec mon fils. Donc, soit je le prenais sur le dos et puis je faisais des montées. Donc là, ça me faisait un entraînement d'endurance force. Hein. C'est top.
Tu ne pourras pas faire ça non plus les 5 prochaines années.
Là, maintenant, ouais, déjà, je vois
à
ça.
À 9 ans, ça a commencé déjà à se corser un peu.
je vois tout à fait la limite. Là, il veut plus venir. Ou alors, soit il vient sur mon dos, soit je cours sur le tapis roulant pendant qu'il joue à côté de moi.
D'accord.
C'est un entraînement... Selon la météo et selon les envies du petit. Et puis après, le week-end, c'est facile parce que mon mari est là. Et puis, je peux aller, on alterne parce que lui, il est aussi coureur, hein, bien sûr. Il est encore coureur à pied. Donc, on alterne un moment lui, après un moment moi. Et puis après, on est avec les enfants. Donc, j'arrive à bien m'entraîner avec la famille. Et puis, c'est quand je dois faire un deuxième entraînement, soit je le fais, pendant que le petit dort, ou bien en fin de journée, quand mon mari rentre, j'arrive toujours à trouver un moment, quoi.
Très bien. Écoute, merci beaucoup pour cette introduction, Maude. On va passer désormais à notre redoutable séquence de la basket chinoise. C'est un format de portrait chinois version sportif qui va nous permettre de continuer à mieux te connaître. Mais la première question de cette basket chinoise, si tu étais un personnage de fiction, qui serais-tu, Maude?
Alors là, j'ai pas trouvé. Non, j'arrive pas. Non. En plus, je suis quelqu'un qui regarde très peu la télé. Et j'ai déjà dû taper sur Google personnage fiction pour avoir des exemples parce que j'arrive pas à trouver. Donc non, là, j'ai pas de réponse.
D'accord, très bien. Et si tu étais un animal, est-ce que ça t'a inspiré?
Oui, alors ça, l'animal, c'est assez facile. Je me dis toujours que j'aimerais bien être un chamois parce que je trouve que déjà ils vivent dans les montagnes. Et puis, c'est un animal qui est gracieux, qui est souple et qui se déplace dans la montagne de façon tellement facile et rapidement. C'est trop beau, quoi. Donc, j'aimerais bien être comme eux.
Demande de réincarnation prise en compte. Ce sera voilà. Chamois pour toi. OK. Et est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui t'inspire de façon particulièrement significative?
Alors, il n'y a pas un sportif en particulier qui m'inspire parce que... Voilà, je trouve que certains ils font des choses bien comme ça, certains voilà, j'ai pas un qui sort vraiment du lot, mais ce qui m'inspire beaucoup et ce que j'admire beaucoup, c'est les sportifs qui sont pas pros, qui travaillent, qui ont un job à 100%, qui ont une famille mais qui ont des performances presque comme des pros et qui s'entraînent 10 13 heures par semaine. J'ai pas de nom hein, en particulier à sortir, mais je pense qu'il y en a qui vont se retrouver. Et ça, je les admire beaucoup parce que d'arriver du travail, d'aller encore s'entraîner 1-2 heures, et après de encore avoir voir la famille, chapeau quoi.
C'est vrai, C'est vrai, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'auditeurs qui vont se reconnaître dans cette description. Ce n'est pas les gens dont on parle le plus, c'est finalement, effectivement, ils arrivent à combiner pas mal de sujets, mettre tout ça en parallèle et avoir des performances incroyables. C'est admirable. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Maud. On va maintenant parler de ta course épique, le Golden Trail Championship, et plus particulièrement son édition 2020, qui est une édition au format très inhabituel. Pour présenter cette course en quelques mots, le Golden Trail Championship, c'est une compétition de trail par étapes qui est organisée par Salomon et qui s'est déroulée entre le 28 octobre et le 1er novembre dernier aux Açores, sur l'île de Fayal. Suite aux annulations de la course Zegama Ice Gori, je suis désolé pour la prononciation, je m'excuse d'avance, et du marathon du Mont Blanc, ainsi que l'incertitude générale liée à la pandémie de Covid-19, la saison 2020 des Golden Trail World Series habituelle, qui était composée de 6 courses de qualification et puis d'une finale, a été annulée. Donc pour la remplacer, les organisateurs ils ont mis en place un événement unique qu'est ce Golden Trail Championship. Donc cette finale, elle prend cette fois la forme d'un trail par étapes sur 4 jours, qui est précédé d'une journée de prologue. Les inscriptions sont ouvertes à tous, c'est sur tirage au sort, mais voilà, les organisateurs offrent en parallèle 74 Golden Tickets aux athlètes qui se sont illustrés lors du Golden Trail World Series de l'année précédente, donc 2019, ou lors d'une Golden Race en 2020, ce qui a notamment été le cas de mon récent invité Frédéric Tranchant, qui s'est qualifié suite à sa brillante performance cette année à Sirzinal, une course que tu connais particulièrement bien, Maud. Donc voilà, comme vous pouvez l'entendre, cette course, elle réunit vraiment l'élite du trail mondial. Et en plus du classement général final, la compétition, elle récompense à chaque étape 4 catégories, le vainqueur du jour, le meilleur grimpeur, le meilleur descendeur et le meilleur sprinter, à chaque fois dans les catégories hommes et femmes. Et à l'instar du Tour de France, il y a donc 4 couleurs de dossard distribuées à la fin de chaque étape, le rouge pour les montées, le bleu les descentes, le vert pour le sprint et le jaune pour le leader du général. Donc voilà, à l'issue des 4 jours, il y a un classement général qui est établi et sont déclarés championne et championne de ces Golden Trail Championship, la coureuse et le coureur qui ont réalisé le moins de temps cumulé sur l'ensemble de ces étapes. Donc voilà, je pense que maintenant tout le monde est incollable sur ce Golden Trail Championship 2020, qui est un format assez inhabituel, on l'a dit. On va donc parler de cette grande épopée de 5 jours dans des conditions qui ont été très souvent bien dantesques. Maud, tu vas nous faire vivre tout ça plus en détail. Avant que tu nous racontes cette course épique, l'heure est venue de te frotter au redoutable exercice de la question qui pique de course épique. C'est une question gentiment piège que je pose à mes invités. On l'a dit tout à l'heure, les heureux participants élites du Golden Trail Championship se sont vus remettre un précieux sésame, le Golden Ticket, ou Ticket d'or, comme on dit en bon français. Est-ce que tu pourrais me dire à quelle occasion est apparue pour la première fois dans l'histoire cette expression, ou en tout cas cette notion de Golden Ticket? T'as le droit à un indice si tu veux.
Alors, je trouve volontiers l'indice.
C'est un bouquin, et qui est en lien avec une de tes gourmandises préférées, si j'ai bien lu. Est-ce que ça te parle?
Ma gourmandise préférée, c'est le chocolat. Donc, peut-être, c'est une marque, donc, hein.
Non, c'est un livre, en fait. Un livre pour enfants.
C'est un livre.
Ouais. Allez, je vais t'aider. Si t'es OK, si tu donnes ta langue au chat, je te donne la réponse.
J'aurais dû Charlie à la chocolaterie.
Non, bravo, mais c'est très bien.
Ah, c'est ça?
Mais oui, bravo.
Ah, cool.
Bravo, exactement. Donc c'est un roman de Roald Dahl qui a été publié en 1964 et qui a été adapté au cinéma notamment par Tim Burton. Et donc pour ceux qui n'en connaissent pas l'histoire, les tickets d'or, c'est une invention de Willy Wonka qui est l'étrange propriétaire de la plus grande usine de chocolat au monde et qui souhaitait donner la chance à 5 enfants de venir visiter sa chocolaterie. Et donc il a organisé pour ça une loterie avec 5 tablettes de chocolat de sa marque Wonka qui contenaient chacune des tickets d'or cachés sous leur emballage et disséminés dans le monde entier. Et chacun de ces 5 tickets finalement autorisait son possesseur à venir visiter la chocolaterie avec Willy Wonka comme accompagnateur en personne. Donc voilà, c'est un peu de cette façon. Et oui, un grand classique d'enfance et une Madeleine de Proust pour les adultes qu'on est. Donc voilà, c'est un peu comme dans le cas du Golden Trail Championship, c'est un immense privilège en tout cas de détenir ce Golden Ticket. Bon allez, trêve de chocolaterie, cette fois le moment est venu de nous plonger dans ta course épique aux Açores. À quel moment, Maud, est-ce que tu as appris que le format du Golden Trail allait être adapté pour cette édition 2020? Donc, il fallait que tu prévoies ça à ton calendrier de course de fin octobre.
Il me semble que c'était au mois je sais plus maintenant, vers avril, peut-être, avril-mai, que là, j'ai appris qu'il y aurait cette Golden Trail Championship. Mais pour moi, c'était clair que ça allait pas avoir lieu. Donc, je me suis pas trop focalisée là-dessus. J'ai fait ma saison. J'ai pris les courses qui existaient, enfin qui où je pouvais prendre le départ, et puis voilà. Mais c'est vraiment 3 semaines avant de partir que je me suis dit cette fois je pense que ça aura lieu, parce qu'on avait vraiment des mails qui nous disaient comment nous préparer, les conditions strictes qu'il y aura là-bas. Donc j'ai vraiment pris conscience que j'allais y courir 2 semaines avant, quoi.
D'accord. Et est-ce que c'est un format qui te faisait envie sur le papier?
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que quand j'avais vu cette Golden Trail Championship sur 4 étapes, bah ça me j'avais vraiment envie d'y participer parce que ça fait longtemps que j'ai envie de faire une course par étapes. J'avais déjà idée de faire une fois la Pyramenta été. Bah c'est vrai, ouais, c'est je trouve que c'est un autre effort, il y a une autre gestion et puis j'avais envie de me tester sur ce format. Donc j'avais vraiment une grosse motivation pour cette fin d'année.
Tu avais déjà eu l'occasion de participer à l'édition précédente de la finale des Golden Trail Series qui s'est tenue au Népal l'année dernière, une course qui a été aussi assez épique pour toi. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots?
Oui, alors bah déjà c'était dans un pays, voilà, j'étais jamais allée au Népal, c'est totalement dépaysant. Et puis bah, la course s'est pas passée exactement comme je l'avais pensé parce que bah, au départ, au bout de 13 kilomètres, j'ai perdu mon chemin. Et j'ai pu rejoindre en fait la course par un autre chemin et jusqu'à la fin on me disait non c'est bon, vous êtes dans la course, vous pouvez continuer, parce que j'avais passé par tous les points de contrôle. Et c'est vraiment j'étais un peu ambivalente toute la course en me disant non mais c'est pas possible, je vais être disqualifiée. Alors je relâchais un peu, après on me disait non c'est bon, tu peux continuer. Alors je mettais un peu les bouchées doubles
et... C'est les montagnes russes au Népal.
Ouais, exact. Et tout à la fin, pour finir, lors du podium, ils ont dit non, on est obligé de disqualifier. Mais on a vraiment dû attendre jusqu'au podium pour savoir que j'étais disqualifiée, ce que j'ai trouvé totalement juste, hein. Voilà. Mais c'était une belle course que j'ai fait tout le long. J'ai quand même fait mes 42 kills avec tous les dénivelés qu'il y avait.
Et tu as fini deuxième quand même. Tu l'as pas dit par modestie, voilà, mais tu as fini deuxième. Ouais,
Mais c'est un bon souvenir, hein. C'était un très très beau voyage parce qu'on n'est pas allé là-bas que pour la course, on a fait 2 semaines au total, donc c'est des magnifiques souvenirs.
Génial. Et donc pour cette édition 2020, on l'a dit tout à l'heure, le format était assez inhabituel et finalement tu as su assez tardivement que la course allait avoir lieu. Est-ce que tu as eu quand même l'occasion ou est-ce que tu étais mis en tête de mettre en place une préparation assez spécifique pour cette course?
Non, alors j'ai pas fait de préparation spécifique, j'ai juste un peu augmenté mon volume pendant la saison estivale. Mais de toute façon, je l'aurais fait parce que pour Cerzinal et puis pour je me rappelle plus quelle course je voulais faire, mais bref, j'avais quand même augmenté un peu le volume. J'avais pas couru 4 jours de suite par contre parce que j'avais une blessure à un ischio. Qui me permettait pas de courir, ça empirait en fait si je faisais que de la course à pied, donc j'ai beaucoup alterné avec le vélo, donc je savais pas si j'allais pouvoir tenir ces 4 jours de course à pied. C'était le seul point qui me faisait un peu peur, mais autrement ma préparation je l'ai quand même, j'ai un bon fond, je sais que je peux tenir des formats comme ça, en tout cas sur 1 ou 2 jours quoi. Mais j'ai pas fait de préparation spécifique pour les Golden Trail Championship.
Est-ce que c'est une aventure que tu as vécue toi comme plutôt collective, dans laquelle tu as un encadrement et un esprit d'équipe, ou est-ce que chacun y va par ses propres moyens et est assez finalement autonome dans ce projet-là?
Tu dis sur place?
Oui, dans l'idée même pour y aller, puis effectivement sur place, est-ce qu'il y a un esprit très collectif et voilà, et tu avais un encadrement particulier autour de toi aussi peut-être?
Ouais, alors oui, sur place, on était avec l'équipe Salomon, donc on avait les caméramans qui étaient là, on avait un physio-ostéo, on avait 2-3 personnes qui pouvaient être sur le parcours pour nous dire où on en est par rapport aux autres coureurs. Et puis on était tous dans le même hôtel, donc ça fait un esprit groupe, on se voit tous pour les repas. Donc c'est plus chaleureux que juste une course d'un jour. Donc ouais, l'encadrement était top. Puis après dans la préparation, on avait régulièrement des nouvelles des organisateurs pour savoir comment ça allait se passer. Mais autrement, en termes vraiment de préparation sportive, non, il n'y a pas d'encadrement. C'est chacun se prépare individuellement.
Combien de jours est-ce que toi tu es arrivé sur place en amont de la course?
Alors je suis arrivée juste un jour avant le prologue. Parce qu'au niveau familial, ça, je pouvais pas me permettre de partir 2 semaines. Donc, je suis arrivée juste, je suis arrivée et puis le lendemain, il y avait le prologue.
D'accord. Et donc, l'ambiance la veille, tu parlais de tous les coureurs, tout le monde réuni, elle est comment? Elle est plutôt studieuse, les gens sont plutôt concentrés ou au contraire, c'est très relâché et presque une colonie de vacances où les gens sont là très détendus?
Bon, il y a un peu de tout. Il y a ceux qui sont stressés, il y a ceux qui sont très détendus. Mais non, globalement, plutôt détendus. Parce que déjà on était tous heureux de pouvoir courir ici parce qu'on s'y attendait vraiment pas, et puis de tous se retrouver, donc c'était très convivial. Et puis même avant les courses, je trouve que les gens, ouais, on c'est pas chacun est dans sa bulle avec avec la musique dans les oreilles, c'est plutôt des conversations, parce qu'on avait un bus qui nous amenait au départ, hein, donc on avait chaque fois le temps de discuter, donc ouais, très convivial, moi j'ai trouvé.
Et puis je pense que vous avez dû aussi en profiter, j'imagine que vous aviez conscience aussi à ce moment-là, enfin, c'était la pleine période où le reconfinement se profilait dans pas mal de pays, et donc nous qui étions en tout cas reconfinés et qui vivions à distance la course, c'était aussi une super belle échappée, c'était les derniers instants qu'on pouvait un peu picorer de coureurs, de liberté, enfin c'était aussi très positif et riche d'optimisme de vous voir pouvoir vivre en tout cas ça, alors que la période avait, enfin on savait qu'on allait vers le moins bien tous quoi.
Tout à fait, d'ailleurs l'avant-dernier jour de course, j'en entendais même dans le bus qui disait « Ah, mais moi, je crois que je vais changer mes billets d'avion, je vais retarder mon départ
pour pas devoir rentre plus. »
Exactement. Ouais, c'était sympa.
Est-ce que tu pourrais nous parler, justement, pour nous faire voyager un peu, nous qui sommes tous globalement enfermés chez nous ou à moins d'un kilomètre de chez nous, du décor sur l'île globalement? Est-ce que tu avais d'ailleurs eu le temps, même si tu arrivais seulement la veille, est-ce que tu as eu le temps d'aller t'imprégner un peu de certains segments du parcours ou en tout cas voilà, d'aller observer l'île?
Alors bon, j'ai pas vraiment eu le temps d'observer avant la course. Après, malheureusement, pendant les courses, on a eu, bah voilà, comme tu l'as dit avant, des conditions pas terribles avec beaucoup de brouillard au sommet. Donc en haut, j'ai pas vu grand chose. Mais ce que j'ai pu voir, c'est assez quand même exotique avec bien sûr que c'est entouré d'océans déjà. Et après, bah en fait, les bords. Il y a beaucoup de lave parce que c'est une île qui est très volcanique, donc on a couru sur la lave. Au niveau du climat, il fait chaud, hein, c'est toujours entre 15 et 20 degrés toute l'année, donc c'était appréciable au mois de novembre de pouvoir avoir 20 degrés. Et c'est aussi assez humide, c'est une des rares fois où j'ai autant transpiré pendant des courses. On est vraiment au bout de 15 minutes de course, on est mouillé quoi, on est vraiment même trempe. C'est très très humide. Après au niveau de la végétation, je connais pas les arbres, mais c'est pas des grands sapins, c'est assez
on a plutôt l'impression de voir une jungle en tout cas, nous tout ce que on a pu voir de loin, ça ressemble parfois
aussi,
à des passages.
Ouais. Il y avait des parties vraiment dans la jungle très sauvage avec du bambou, des arbres assez tortueux comme ça, plutôt bas parce qu'il y a tout le temps du vent là-bas, donc les arbres ne sont pas très hauts, assez sec aussi. Qu'est-ce que je peux dire, c'est le sommet de l'île où on était, donc Fayal, je crois qu'il est à 1700, hein, donc c'est assez bas, voilà quoi. Des plages de sable aussi, par moment on court sur des terrains qui sont assez sablonneux. Voilà.
Je pense que c'est une belle description. Je pense que l'Office du tourisme des Açores serait très fier de ta présentation, qui donne envie en tout cas. Et si on parle un petit peu de l'environnement et des autres concurrentes, est-ce qu'il y a des coureuses dont tu te méfies plus particulièrement?
Oui, alors là, cette année, la grosse incertitude, c'était Tove Alexandersson, qui est une multiple championne du monde de course d'orientation. Et puis j'avais vu qu'elle avait fait des bons résultats aussi dans des trails en France, donc c'était vraiment celle avec qui j'avais jamais couru et je savais pas du tout où je me situais par rapport à elle. Et puis après il y a aussi toutes celles qui vont bien, donc Anaïs Abrier, la française, qui est jamais loin derrière moi. Il y a aussi Camille Bruyas, mm-hmm. qui fait du format un peu plus long. Donc je me suis dit, sur 4 jours, elle pourrait tirer son épingle du jeu.
Elle s'en est bien sortie d'ailleurs, je crois qu'elle finit 6e, si je ne dis pas bêtise.
6e, ouais, tout à fait. Et puis il y a les autres aussi, comment elle s'appelle,
l'américaine aussi, Rachel Drake, c'est ça?
Voilà,
Blondine Hirondelle aussi, la française.
Blondine, ouais, parce qu'elle, je sais qu'elle aussi sur du plus long, elle va bien. Et puis Ruth Croft, hein, aussi, elle vient de. Ah! Pas d'Amérique, la Nouvelle-Zélande, voilà. La Nouvelle-Zélande, l'année passée, elle était chaque fois sur le podium dans les Golden Trail Series, donc fallait que je m'en méfie aussi, mais il me semble que cette année, elle était un petit peu moins en forme. Elle est restée un peu en retrait. Mais voilà, il y avait vraiment des beaux noms, hein, qui étaient là. Je pense que tous les coureurs étaient là, tous les coureurs de sur ce format normalement mais d'un jour hein, mais les 20 30 km bah tous les bons étaient là hein, donc
un plateau très relevé. Et est-ce que toi sur le principe et sur le papier, c'est un profil de course qui te va bien, tu penses?
Oui, tout à fait. Ouais. Chaque étape c'est enfin ouais, chaque étape me convient bien, me convenait bien. Après c'était juste l'enchaînement qu'il fallait gérer quoi.
Est-ce que tu peux nous parler de l'ambiance au départ du prologue et peut-être toi, comment tu te sens plus particulièrement? Est-ce que tu es impatiente? Est-ce que tu as hâte d'en découdre? Est-ce que tu es très détendue, relâchée? Enfin voilà, comment se passe ce moment juste avant de prendre le tout premier départ et faire tes premières foulées sur ce prologue?
Ouais, alors j'étais impatiente parce que voilà, j'avais envie de courir, impatiente de voir aussi le niveau et où je me situais. Et puis impatiente parce que la journée elle a été très longue en fait, la l'attente a été très longue parce que le départ pour moi il était à 15h45 l'après-midi. Donc on s'est commencé hein, on se réveille, puis après on fait que l'attendre, attendre, attendre. On a juste envie de prendre le départ. Ouais, j'étais très très impatiente et puis un petit peu nerveuse quand même de savoir où j'allais me situer pendant ce prologue.
Donc, on l'a dit, c'est un format, comme le veut tout bon prologue, en tout cas, c'est un format d'étape qui est très court et qui est intense. Celui-là faisait un peu plus de 3 km, 3 km et demi pour être exact. Comment se passe justement cette journée de prologue et est-ce que les conditions sont plutôt favorables ce jour-là?
Oui, alors, déjà, une belle journée avec du soleil, pas mal de vent quand même. J'ai pris, je me suis réveillée vers les 7h30, j'ai pris un gros petit déjeuner vers les 8h. Et puis après, j'ai pas fait grand chose, en fait. Je suis restée dans ma chambre, à tourner en rond, à lire, à préparer ma course, à regarder, le profil des étapes, des jours aussi qui allaient venir. Et puis, à discuter avec ma collègue de chambre. Donc, j'étais avec, Eliane, qui est une Norvégienne, que je connaissais déjà d'avant. Et donc, on a beaucoup discuté, beaucoup appris l'une sur l'autre. Et puis ensuite, vers les 13h30, j'ai pris un petit snack, j'ai mangé un petit truc encore, voilà. Avant de partir vers les 14h45, m'échauffer. Et puis, j'ai fait un gros échauffement parce que comme c'est un format très court, voilà, fallait être bien chaud quand même. Et puis, comme j'avais peu couru les derniers jours, j'étais bien, bien reposée. Il fallait quand même que je réapprenne aux muscles à se contracter, hein. Donc, j'ai fait un gros échauffement de presque mais en tout, 1 heure, 45 minutes. Et puis, à 15h45, j'étais sur la ligne de départ, donc, avec mon masque, impatiente de faire ce prologue.
Donc, ce prologue, tu le cours à vive allure puisque tu as remporté ce prologue. C'était vraiment le coup d'envoi pour toi. Enfin, l'idée, tu l'as vraiment envisagé comme une espèce d'entraînement plus, de mise en route, d'observation et de te tester un peu sur ce format assez intense.
Ouais, alors déjà comme je sais que je suis pas quelqu'un qui est très explosive, qui a beaucoup de vitesse, j'avais peur au fait d'être que seulement dans les 10-15e et puis de pas avoir ma place sur la première ligne parce qu'en fait le classement du prologue détermine la ligne de départ de la première étape. Et donc j'avais envie d'être devant pour la première étape. Donc, fallait que je fasse un bon prologue quand même. Alors, je me suis donné à 90% parce qu'il fallait quand même en garder un tout petit peu et puis pas être mort parce qu'après il y avait 4 jours derrière. Mais j'ai quand même donné presque le maximum pour être bien classé pour la première étape.
Est-ce que c'était déjà révélateur les performances potentiellement de tes rivales sur la distance, enfin sur la compétition en tout cas, est-ce que c'était déjà révélateur? Est-ce que tu as regardé les résultats de ce prologue ou c'était pas vraiment significatif à ce stade?
Non, j'ai pas trop regardé parce qu'après on sait jamais ceux qui ont pas trop tiré pour se préserver, ceux qui ont vraiment donné à fond et puis après qui sont morts pour les 4 jours suivants. Puis après il y en a qui ont aussi joué que le sprint parce qu'il y avait aussi les segments du meilleur grimpeur, meilleur descendeur, meilleur sprinter. Donc il y en a qui ont fait le prologue très cool et puis qui ont juste fait le segment descente à fond. Donc c'était très tactique quand même, donc j'ai pas trop regardé les résultats.
Ouais, difficile d'en tirer des conclusions.
Ouais.
On est désormais donc le deuxième jour et c'est l'étape numéro 1. Les conditions se sont sérieusement dégradées pour cette journée-là. Dans quelle disposition toi tu abordes cette étape donc qui est de 26 km et 1100 mètres de dénivelé positif? Est-ce que tu as une stratégie particulière pour cette première étape?
Alors non, pas de stratégie particulière, c'est vraiment la première, donc c'est là que tu vois un peu où t'en es, regarder par rapport aux concurrentes. Donc moi, j'étais pas trop motivée à prendre le départ, parce que comme tu le dis, c'était des conditions horribles avec la pluie, du vent au départ. Donc je me dis, bon, bah, t'excites pas, tu fais ton rythme et puis tu verras bien comment ça va. Donc ben je pars au fait avec la tête de la course hein, directement. Il y a juste Tove Alexanderson qui peut pas partir avec nous en fait directement sur la première ligne de départ parce qu'elle a pas pu courir le prologue en attente d'un test Covid. Donc avec ça elle a été reléguée derrière et avec ça elle a pas pu partir au devant. Mais bon, c'est pas grave. Je pars avec la tête de course. Et puis après, dans la section uphill, c'est un peu plus raide. Donc là, j'arrive à prendre de l'avance. Et je me retrouve seule, avec un écart assez important avec le reste des filles. Donc je suis vraiment seule dans le brouillard. Je fais ma course. Je suis hyper concentrée sur les drapeaux. Parce que comme on voyait pas grand chose, il fallait surtout pas que je rate le sentier. Et puis ça, c'est aussi un point faible que j'aurais pu dire avant. C'est que des fois, je suis un peu dans la lune, je suis concentrée sur mon effort et puis je vois pas au fait le sentier ou je loupe je perds mon chemin. Donc là, je me suis vraiment focalisée sur drapeau après drapeau. Et après, là, on arrivait dans une forêt qui était hyper boueuse, sinueuse, impossible à courir. Donc c'était en montée. Impossible à dépasser aussi, c'était vraiment un petit sentier dans la forêt. Ils avaient juste coupé les arbres pour qu'on puisse passer. Et puis là, Tove me dépasse à fond la caisse. Et là, je me dis, waouh, c'est vraiment un sacré morceau, quoi, un sacré numéro. elle va hyper vite. Je la laisse aller, quoi. Je m'accroche, je pense même pas m'accrocher à elle, parce que moi, mon idée c'était de pas laisser de plumes en fait la première étape hein. Donc j'ai pris un rythme on va dire pas de croisière hein, parce qu'il faut quand même tirer mais j'étais pas à 100%. Ensuite on arrivait au sommet d'un volcan et on a fait toute la crête du volcan mais bon on voyait rien du tout et après une descente très technique, très boueuse, glissante avec des trous, des flaques, c'était horrible. Et là, mon but c'était de pas prendre de risques. Donc il y a même des bouts où j'ai beaucoup de bouts de morceaux où je marchais. Et puis là, donc il y a déjà Tove qui était devant moi. Et puis il y a deux autres filles qui me passent, donc Blondine, l'Hirondelle et Rachel. Et ça me déstabilise un peu. Je me dis, ça revient fort, quoi. Je peux pas me permettre de trop relâcher et de trop marcher. Parce que ça, derrière, il n'y a pas 10 minutes d'écart, quoi. Mais en même temps, alors ça me déstabilise un peu, mais en même temps, je me dis, c'est pas grave, c'est long, l'étape est longue, et puis il y a encore 3 jours derrière. Donc, je ne m'excite pas trop non plus. Et après, les derniers 10 kilomètres, ils sont très, très vallonnés. Très, très vallonnés, avec beaucoup de montées et de descentes, et puis interminables. Là aussi, avec des portions un peu d'un forêt où il faut tout le temps slalomer entre les arbres, se baisser, sauter par-dessus, enfin vraiment comme des circuits VTT un petit peu. Hein. Et puis là, en fait, j'ai bien fait de pas trop m'exciter au début parce que je reprends la deuxième place, je redépasse Blondine et Rachel pour me placer derrière Tove. Donc au final, je passe à la ligne d'arrivée deuxième. Mais 7 minutes derrière Tove. Mais en passant la ligne d'arrivée, je vois que Tove, elle est blessée. Elle a la cheville en l'air, les Samaritains autour d'elle. Et je me dis, oula, elle a peut-être pris trop de risques. Et puis, effectivement, elle s'est tordue la cheville. Donc, je sais pas, à ce moment-là, je sais même pas si elle va pouvoir continuer la course les autres jours. Donc, je suis plutôt satisfaite de ma première étape parce que, deuxième, mais sans blessure, sans rien, sans avoir laissé de plumes.
Et comment tu te sens physiquement à l'issue de cette première journée? Est-ce que ça a déjà un peu cogné pour toi aussi?
Alors non, je me sens bien physiquement parce que je sens que j'ai pas trop perdu de d'énergie. Par contre, je me dis que si c'est technique comme ça les 4 prochains jours, ça va être difficile quand même.
Et donc le soir, comment ça se passe? Vous allez chacun est dans son coin, vous vous retrouvez peut-être autour du dîner, tout le monde va se coucher assez tôt et pour le coup entièrement concentré sur sa course et pas de débordement le soir, chacun est très sage.
Alors effectivement pas de débordement, mais on se retrouve quand même tous pour le souper, on parle un peu de cette première course, comment ça s'est passé pour nous, donc c'est quand même très convivial, hein. Mais chacun à ses heures où il va, enfin on peut aller manger plus ou moins là, on avait une heure et demie pour aller manger, donc on s'est regroupé un peu par avec qui on aime bien manger.
Par affinité, ouais.
Voilà, par affinité exactement, mais c'est pas enfin on n'est pas tous dans notre bulle à pas discuter, quoi. Voilà, ça reste convivial. Moi ce que je peux dire aussi, c'est que ce qui a beaucoup changé au fait dans ces courses par étapes, c'est la récupération après course, parce que quand on fait juste une course, on s'en fiche un peu. Dès qu'on est arrivé, on discute, on s'en fout un peu de ce qu'on mange et ce qu'on boit, enfin voilà. Alors que là, quand j'arrivais, la première chose que je faisais, c'était tout de suite boire, manger, me rhabiller, mettre du chaud. Je pensais tout de suite à la récupération, ce que je fais jamais d'habitude. Et puis je restais pas debout inutilement. Tout de suite, je m'asseyais, j'allais dans le bus qui nous attendait pour nous rapatrier. Je mettais des fois les jambes en l'air. Donc ouais, vraiment, ça c'est quelque chose qui est hyper important quand on fait des courses par étapes.
Bon, là c'est reparti pour un tour avec cette fois la deuxième étape et c'est 32 km et 1300 mètres de D+. J'imagine que t'as un seul objectif en tête à ce moment-là, c'est reprendre le maximum de temps à Tovey.
Oui, tout à fait. Alors la deuxième étape, elle a été modifiée pour finir, c'était que 25 km et 1150 de dénivelé. C'était un peu modifié avec à cause des conditions. Donc bien sûr, moi la stratégie, c'est de récupérer tout le temps que je peux sur Tovey. En plus, je sais que c'est une étape moins technique. Donc je me dis que je vais pouvoir jouer un petit peu, enfin j'ai une foulée qui est assez rapide quand c'est du plus roulant. Donc là, le départ, il est tout de suite en montée. Donc, je me détache assez rapidement des autres. En plus, là, cette fois, Tovey, elle a pu partir avec nous, devant. Mais je vois que je peux prendre l'avance quand même sur Tovey en montée. Donc, comme je sais qu'elle est plus forte que moi, dans les descentes, j'essaye de prendre le maximum d'avance dans la montée. Mais j'arrive pas non plus à prendre, énormément d'avance parce qu'elle va bien dans la montée. Ensuite, j'arrive à cette section uphill, hein, section, enfin le meilleur grimpeur, voilà. Donc j'essaye d'accélérer un peu pour avoir le meilleur temps, et au final, j'arrive à l'avoir, donc je suis très contente. Et ensuite, on aborde une partie qui est un peu plus technique, avec de nouveau beaucoup de boue, des flaques d'eau, de nouveau dans le brouillard. Puis encore sur la crête du volcan où là, pareil quoi, c'est très très, il y a beaucoup de trous, il y a du vent, j'ai l'impression que j'avance pas. Et puis je vois pas Tovey parce que il y a beaucoup de brouillard, donc je la vois pas. Et je suis toute seule, j'ai l'impression d'être à l'entraînement. Et là j'ai vraiment peur que les autres me dépassent parce que j'espère pouvoir gagner cette étape. J'aborde la descente de nouveau seule et avec cette peur que les autres me dépassent, donc j'essaie de perdre le moins de temps possible, sans trop prendre de risques non plus. Et je vois deux trois personnes qui sont sur le parcours, donc des supporters, hein, et puis ils me disent ouais, c'est bon, t'as encore un peu d'avance, elle est pour toi cette étape, allez, tu vas pouvoir la gagner. Et puis je sais que toute la fin, en fait, elle est beaucoup plus roulante, je suis beaucoup plus à l'aise, on est plus sur route. Donc là, j'essaie de lâcher un peu les chevaux, qu'on me dépasse pas, parce que je suis déjà surprise que Tovey, elle m'ait pas encore repris. Et puis la toute fin, je dirais les 4 derniers kilomètres, ils sont très vallonnés à travers forêt, à travers des champs, mais ils sont, c'est plus roulant quand même. Donc, j'arrive à conserver une bonne foulée, même si les jambes deviennent lourdes quand même. On voit que c'est dans le deuxième jour. J'ai plus de fatigue que la veille. Voilà, donc j'arrive à tenir le rythme et je finis en 2h13 de course. Je gagne, bien sûr. J'ai réussi mon objectif. Et puis, je gagne 2 minutes 30 devant Tove. Donc, je suis super contente de cette étape. Et puis, surtout, je prends 4 minutes à Blondine et 5 minutes à Rachel. Donc, ça me laisse une marge assez confortable pour les prochains jours.
Un peu de sérénité, un boost de confiance pour les deux
Exactement.
Étapes qui restent.
Ouais.
Donc là, on passe à la troisième étape, qui est un sacré morceau, cette fois de 32 km et 2400 mètres de D+, avec toujours des conditions vraiment défavorables, voire hostiles, et un parcours qui, là aussi, a dû être modifié.
Tout à fait. Donc, au final, on est resté sur la même île, on avait changé, on devait aller sur le Pico, donc le plus gros haut volcan de toutes les îles, mais ils se rabattent sur un parcours, en fait, je vais expliquer après. Au final, on a 31 km et 1450 de dénivelé. Donc là aussi, au départ, cette fois, je suis de nouveau pas trop motivée, parce que, les conditions sont toujours pareilles, beaucoup de brouillard, beaucoup de vent. Et puis, cette fois, j'ai les jambes vraiment fatiguées. Je pense que j'ai dû tirer dans cette deuxième étape et puis, les jambes, je les ressens bien. Je me dis que je vais pas m'exciter, que toute la première partie, je vais essayer de la faire avec la tête de la course et puis pas partir devant et puis encore brûler l'énergie quoi. Là, j'ai assez d'avance sur Blondine et Rachel et puis je vais essayer de tenir Tove quoi. Alors que je pars, il y a 7 km qui sont plus ou moins plats. Interminable au fait dans une forêt de bambou, enfin pas de bambou mais c'est ce que vous avez vu je pense les images dans le sable et puis où on slalome entre les arbres. Donc là Blondine et Rachel elles partent devant comme des boulets de canon et j'ai les jambes tellement fatiguées que j'arrive pas à suivre et puis je me dis c'est pas grave, tu t'excites pas, tu les suis pas et puis je reste avec Tove et on fait toute la course, enfin tous ces 7 premiers kilomètres ensemble. Et puis tout d'un coup, c'est assez sinueux. Et puis je perds Tove de vue. Je sais pas si elle s'est trompée de parcours, mais bon, voilà quoi. Je la perds de vue et j'attaque la montée, qui est aussi la section du meilleur grimpeur. Donc là, j'accélère un peu, les jambes reviennent gentiment, et puis j'aperçois Rachel et Blondine. Et je me rapproche de plus en plus, donc ça me remet en confiance. Je me dis que c'est bon, dans la montée j'ai encore des forces.
Donc au deux tiers de l'étape tu repasses, tu reprends la main et tu repasses
voilà,
en tête, c'est
et
ça
voilà.
Enfin, tu rejoins le groupe de tête.
Exactement, je rejoins le groupe de tête, je passe Rachel et Blondine, Tobé elle reste derrière et puis je l'aperçois plus de toute la course en fait. Ensuite on arrive au sommet de la montée, on est de nouveau sur ce volcan. Et là, il y a vraiment un. Donc là, je suis seule. Hein. J'ai passé les deux Blondine et Rachel. Et c'est. Il y a vraiment un vent, mais violent. J'ai jamais vu ça. Un vent qui nous prend de sur le ski, qui souffle sur le côté. Et je dois quasi m'accrocher en fait sur l'herbe avec les mains pour pas m'envoler. Donc j'arrive quasi pas à courir, même par portion, hein, parce que quand t'as les rafales qui arrivent. Je me baisse, j'essaie de garder ma ligne droite sur le sentier. Mais c'est impressionnant, quoi. J'avais jamais couru sur des sentiers comme ça avec autant de vent. C'est hyper crevant aussi, mentalement, parce qu'il faut tout le temps être concentré. Et ensuite, il y a la descente, d'abord technique, où là, je me fais rattraper par Rachel. En fait, c'est plutôt cool qu'elle me rattrape parce qu'avec ça, j'ai quelqu'un avec qui courir. Et puis elle a un sacré bon rythme. Et on fait environ 10 km ensemble à se relayer, à courir ensemble. Donc c'était sympa. Et puis après, il reste plus que 10 km. Et ces 10 derniers kilomètres sont très roulants, plutôt sur route ou des sentiers, mais pas techniques. Mais ils sont aussi très vallonnés. Donc usant physiquement et donc là je suis très contente de pas être partie trop vite au début parce que j'arrive à passer Rachel et à creuser l'écart parce que là, il fallait de nouveau avoir pas mal d'énergie. Et je finis au final 2 minutes devant elle, et puis 5 minutes devant Blondine, donc de nouveau pas mal d'écart. Et puis cette fois, bah, Tove, elle a complètement explosé, et je finis avec 10 minutes d'avance sur elle. Donc là, ça me remet vraiment en confiance, et je me dis que la dernière étape va être en guillemets plus facile, parce que je vais pouvoir gérer mon effort par rapport aux autres filles.
Oui, t'es en position de force et tu peux gérer ta course à ta main, effectivement.
Exactement.
Et justement, là, t'en parles de façon assez détachée, mais toutes ces conditions assez défavorables à pleuvoir pendant ces différentes étapes, est-ce que ça te tape un peu sur le système ou est-ce que t'arrives, parce que ça t'agace et tu trouves ça désagréable ou est-ce que tu prends ça avec philosophie et recul?
Non, alors par moments, c'est vraiment agaçant parce que c'est tout le temps les mêmes conditions. Donc, ouais, déjà, on a envie de voir quelque chose. On est aussi là sur l'île pour pouvoir découvrir quelque chose et puis on voit rien. Donc, c'est énervant. Et puis, bah, les portions dans la boue, c'est en même temps assez ludique et ça coupe un petit peu la course parce qu'on sait que, voilà, d'abord, on a peut-être 5 km roulants. Alors là, on se force, on tire un peu, on essaie d'allonger la foulée. Après, on sait qu'on aura peut-être 2 km dans la jungle ou dans la boue. Donc, on se dit, ah, cool, ça change, bah ouais, c'est ludique, quoi. Ça coupe un petit peu la course. Mais quand on commence à être vraiment fatigué, ou quand l'étape, elle commence à être longue, parce que dans la tête, quand on se prépare pour 30 km avec 1500 dénivelé, bah moi, je me dis, bon, ça va faire, peut-être 2h30 de course. Et quand ça fait déjà 2h30 et puis qu'il nous reste encore 6 ou 7 kilomètres, ça commence à taper sur le système, quoi. On a envie d'aller le plus vite possible et puis d'arriver au bout. Et quand c'est sinueux et puis qu'on voit qu'on est à 6 ou 7 minutes au kill, que ça avance pas du tout, c'est énervant, ouais. J'ai pas l'habitude de ça.
Donc on l'a dit, psychologiquement, tu es dans des très bonnes dispositions à la veille de cette dernière étape. Est-ce que physiquement, tu as des points d'alerte ou tu as des éventuels points de doute sur le fait de pouvoir tenir la cadence sur cette quatrième étape et en gros essayer de suivre le groupe de tête pour t'assurer de la victoire? Est-ce que tu as quelques points d'alerte ou là aussi, tu es assez sereine physiquement sur ta capacité à ce que ça se fasse bien ce dernier jour?
Ouais, non, alors je suis plutôt confiante au début de cette quatrième étape parce que bah, les jambes, elles sont au réveil. Elles sont même meilleures que lors de la troisième étape. Parce que la troisième étape, j'étais vraiment fatiguée. Là, j'ai l'impression que c'est comme si mon corps, il commençait à s'habituer. Donc, je me sens bien au début de cette quatrième étape. Et puis, mentalement, je me sens aussi bien parce que je sais que je vais pas devoir tirer à 100%. Je sais que je vais pouvoir me contenter d'être avec la tête de la course. Bien sûr qu'il faut quand même avoir des bonnes jambes et puis être bien parce que la tête de course faut quand même pouvoir la suivre, hein. Donc voilà, ma stratégie en fait, enfin c'est ça, c'est de rester avec Rachel parce que j'imaginais bien que ce serait Rachel et Blondine qui seraient devant parce que Tove voilà, on voit qu'elle est vraiment extrêmement fatiguée, donc je pense qu'elle va, à ce moment-là je pensais qu'elle allait pas pouvoir suivre, hein. Donc ouais, ma course s'est passée comme je l'avais pensé en fait. Donc j'ai fait toute la course avec Rachel. Rapidement en fait, dès le départ, on se détache des autres, on creuse l'écart et puis on fait toute la course ensemble en se relayant. Une fois elle, une fois moi. Je la laisse plus souvent devant, comme ça elle fait son rythme et puis moi j'ai pas trop de soucis à me faire.
Juste il y avait eu un petit changement de programme aussi. Tu avais droit à une petite surprise pour le troisième jour consécutif. L'organisation, vous avez réservé une petite blague et...
Oui, ouais, juste. T'as bien fait de me rappeler. Ouais, alors, quand on était dans le bus, on nous apprend qu'on va pas pouvoir monter au sommet parce qu'il y a encore plus de vent que d'habitude. Donc, c'est trop dangereux. Alors, je me dis, ah, cool, ils vont réduire l'étape. Et puis non, en fait, on apprend qu'il y aura 5 km de plus. Et puis un peu plus de dénivelé, enfin 100 ou 200 mètres de plus. Donc là, ça m'a foutu un coup au moral parce que voilà, on est déjà bien fatigué, on a envie de finir et puis non, il y aura encore plus de kills. Au final, je serai seulement à l'arrivée, mais ce sera la plus longue étape parce que je vais finir avec un temps de 3h17. Donc Heureusement que je savais pas ça au départ, parce qu'autrement, je crois que j'aurais été démotivée au départ. Et puis bon, bah voilà. Si je reviens sur la course, donc c'était vraiment une super course parce que de pouvoir courir avec quelqu'un tout le temps, c'était très agréable. On parlait pendant, on disait voilà, ouais, comment tu te sens? Ah super. Des fois c'est elle qui allait devant, des fois moi. Enfin, c'était vraiment sympa. Et puis on s'est juste perdu un petit peu au fait au sommet. Parce qu'il y avait beaucoup de brouillard et puis ben, on voyait plus à 2 mètres. Et puis moi j'ai pris un petit peu d'avance dans la section du ben, pour être la meilleure grimpeuse. Et puis ça me tenait à cœur de toujours avoir le meilleur temps, le meilleur chrono dans chaque étape dans cette section de montée. Donc j'ai pris un petit peu d'avance et avec ça ben, après je la voyais plus. Et puis elle m'a rattrapé au fait dans la descente un peu plus technique, environ 7-8 kilomètres plus loin. Donc on s'est de nouveau retrouvés après on était tout le temps à ouais 30-40 secondes. Elle était plutôt devant moi, mais je la voyais souvent.
Et t'as décidé un peu de corser les choses en faisant un petit crochet, un petit détour pas prévu.
Tout d'un coup, ben, en fait on a passé dans une sorte de jungle. Qui durait 3 kilomètres, très sinueuse. Et puis bah là, j'ai perdu Rachel de vue. Et puis j'étais un petit peu moins concentrée. Et tout d'un coup, bah voilà, je voyais plus de drapeau. Et je me suis dit mince, ça y est, j'ai perdu mon chemin. Là, j'ai eu un gros coup de stress parce que on peut vite perdre des minutes. Et puis Rachel, bah elle était en forme, donc il y avait encore à ce moment-là, il restait encore 10 kilomètres, donc on peut même ouais 30 secondes le kill. Ça fait déjà 5 minutes. Je me suis dit ouais. Là j'ai eu vraiment un coup de stress et par chance bah je suis revenue sur mes pas et puis je pense que j'ai dû perdre 1 minute 30 maximum et j'ai retrouvé le bon chemin. Mais par contre j'ai pas perdu de temps là. J'ai vraiment tiré mes dernières cartouches pour essayer de recoller avec Rachel que j'ai plus jamais revue d'ailleurs. Mais j'ai commencé à demander un peu autour de moi à combien de temps j'étais derrière elle et puis à environ 3 kilomètres de l'arrivée on me dit que je suis qu'à 1 minute 30 d'elle, donc là ouf,
relâchement,
voilà, relâcher le stress, enfin, j'ai pu déstresser et puis me dire c'est bon, le classement général je l'aurai, et puis ça me faisait plaisir aussi que Rachel puisse gagner cette dernière étape parce qu'elle avait fait une super course. Et c'était un peu ma stratégie quand je courais avec elle. Au fait, je me disais que si on allait finir ensemble, eh ben que j'allais la laisser gagner parce qu'elle le méritait amplement, quoi. Donc j'étais super contente qu'elle puisse gagner. Et puis ben moi, super contente de pouvoir gagner ce classement général.
Tout le monde était heureux. Qu'est-ce que t'as ressenti justement ? Enfin, y a des choses en particulier, une joie particulière ?
Ben super contente d'avoir pu gérer au fait ces 4 étapes. Parce que bah voilà, au niveau blessure aussi, j'avais toujours cette blessure à cette ischio qui m'empêchait pas de courir, mais je savais que j'étais un peu sur le fil et puis que si je tirais trop ou ça pouvait se dégrader pendant les jours, donc très contente de que ça s'était pas dégradé et puis ouais de d'avoir pu conserver un rythme assez régulier, je pense, pendant ces 4 jours. Parce que voilà, la première étape, j'ai vraiment pris mon mal en patience, quoi. J'ai vraiment essayé de pas aller à fond, de pas prendre de risques dans les descentes qui étaient très techniques, parce qu'il y a eu beaucoup de blessés hein, pendant ces 4 étapes, de personnes qui sont foulées les chevilles, qui sont fait des chutes assez impressionnantes avec des points de suture. Donc il fallait être intelligent, je pense, sur ces 4 jours. Et puis, ben là, j'étais assez fière de moi, quoi.
Vous n'avez pas été aidé vraiment par la météo, mais est-ce qu'il y a quand même une image ou un moment que tu retiens plus particulièrement de ce Golden Trail Championship ?
Le prologue, il était magnifique, hein, parce que on a fait une sorte de tour autour d'une butte, vraiment tout au bout de l'île. Donc, on avait l'eau autour de nous, en fait. Enfin, presque autour. Donc c'était vraiment joli. Et puis mis à part que la météo était exécrable, c'était quand même rigolo, quoi. Ces moments dans la boue, des fois je me demandais en fait si j'étais bien là pour de la course à pied ou si c'était pas un de ces parcours aventure,
une Spartan Race.
Voilà, exactement. Donc c'était, maintenant j'en rigole, quoi. À ce moment, c'était un peu énervant, mais...
C'est bon pour la peau.
C'est vraiment exact. Il y a des moments où j'avais la boue jusqu'au genou et j'arrivais même pas à sortir ma godasse de la boue, quoi. Ça faisait ventouse. C'était assez impressionnant. Ouais, c'était rigolo, quoi. C'était un peu... Sur le moment, c'était aussi rigolo, hein. Des moments, j'en riais. Et puis, des chutes aussi, complètement, où on avait le visage dans la boue, les mains, je savais même plus où m'essuyer, tellement que c'était dégueulasse. Et puis, je retiens aussi la fin, parce que, en fait, on est arrivé avec le soleil, quand même. Voilà, à l'arrivée, on a eu un moment, peut-être 20, 30 minutes de soleil. Donc, c'était beau, quoi. Ouais. C'est sympa de finir avec le soleil.
Il reste que des bons souvenirs.
Oui, tout à fait.
Est-ce que tu ferais quelque chose différemment si tu devais prendre à nouveau le départ de une course de ce type-là avec des étapes sur plusieurs jours? Est-ce que tu changerais des choses?
Non, je trouve que pour une première fois sur des courses par étapes, je suis hyper contente de moi et puis je referais exactement la même chose. Et je le répète de nouveau, je pense que le point clé, c'est la récup, mais tout de suite après la ligne d'arrivée, quoi. On sait que les 15 ou 30 premières minutes, c'est là où le corps, il absorbe le mieux tous les nutriments, les glucides pour refaire le stock de glycogène. Donc, il faut penser à boire et manger tout de suite. Et c'est ce que je faisais. Et ça, je pense que c'est ce qui m'a permis aussi d'avoir de l'énergie et de pouvoir faire une belle performance sur ces 4 jours.
Merci beaucoup Maude pour ce récit passionnant et cette aventure de 5 jours, très riche en émotions et en rebondissements au cœur des Açores, on a pu l'entendre. Une chose est sûre en tout cas, vu les conditions météo infernales dont tu nous as parlé, je suis pas prêt de me programmer des vacances de la Toussaint dans la région. C'est ouais, assez dissuasif, j'ai privilégié d'autres options. Le jour où on pourra revoyager en tout cas. Si on parle maintenant de ton avenir, est-ce que tu as un calendrier de course qui est déjà bien établi pour l'année 2021 en dépit des nombreuses incertitudes qui planent en ce moment?
Non, alors pour l'instant je me projette pas trop. Bah j'ai toujours ces Jeux Olympiques hein, qui seront au mois d'août, donc bah j'ai toujours cet objectif. Et puis bah s'il y a les Golden Trail Series qui vont pouvoir avoir lieu, bah je vais certainement en faire. Mais ça va un peu dépendre si je suis qualifiée pour les Jeux ou pas. Je vais aussi faire ça. Normalement ça devrait se faire un semi-marathon au printemps pour pouvoir essayer d'avoir des points pour le classement général, pour me qualifier pour les Jeux. Donc, je vais pas refaire un marathon, mais plutôt un semi-marathon. Mais je vais aller un peu mois par mois et puis voir ce qui va se faire. J'avais aussi l'idée cet hiver de faire un peu de ski alpinisme pour me préparer au mieux. Alors, vous allez me dire pourquoi du ski alpinisme pour le marathon, mais moi, ça me convient bien parce que ça me permet de faire beaucoup de force et beaucoup de longues sorties. Et puis ça me permet de pas me blesser aussi. Donc voilà, c'était un peu l'idée de faire du ski alpinisme après un semi-marathon au printemps. Et puis après, bah on verra si je suis qualifiée ou pas. Si je pars vraiment que sur la montagne ou bien si je fais les Jeux et puis la montagne en fin de saison.
Donc on a parlé des Jeux qui est un très bel objectif. Est-ce qu'il y a à plus long terme, est-ce qu'il y a un défi sportif qui peut être de course ou de trail ou autre, enfin pas nécessairement en tout cas que de course à pied. Est-ce qu'il y a un rêve que tu cherches absolument à accomplir ou est-ce que les Jeux Olympiques sont ce rêve absolu?
Bah c'est vrai que les Jeux Olympiques, si je peux y participer un jour, ça, c'est vraiment un rêve quoi. Après j'ai pas de rêve absolu que j'ai envie de faire. J'ai juste envie de pouvoir encore voyager et de pouvoir faire des courses comme ça ou la Golden Trail Series le plus longtemps possible. Et puis, peut-être me rapprocher de plus en plus des hommes. Et puis, éventuellement, de faire un jour un ultra. Ça me titille aussi d'aller faire vraiment un format que je connais pas du tout. Et puis d'expérimenter un autre effort quoi, mais c'est pas un rêve quoi, c'est plutôt des envies comme ça,
une opportunité qui peut se présenter.
Des opportunités, ouais, tout à fait.
Je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin mais avec le motto de la fin, Maude, autrement dit la devise qui t'est particulièrement chère ou qui te guide dans la vie. Quel serait le motto que tu souhaiterais partager avec nous?
Alors moi ouais, une phrase qui me représente bien et c'est après l'effort le réconfort. Parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime bien m'entraîner, mais j'aime aussi me faire plaisir. Et après l'entraînement, c'est souvent un plaisir culinaire, un plaisir, je suis une grande amatrice de chocolat. Mais voilà, j'aime bien après l'entraînement de y a
la récompense.
Exactement. Et puis il y a aussi, comme je disais avant, il y a pas que l'effort et les entraînements. J'aime après faire ma vie de famille et puis me laisser être tranquille, faire le farniente sur la terrasse et puis pas penser aux entraînements, quoi. C'est un peu mon réconfort après l'effort.
C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup Maud de nous avoir fait vivre au plus près de toi cette grande aventure qu'est le Golden Trail Championship. Bravo encore à toi pour cette éblouissante victoire, on peut le dire. Je te souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite pour tous tes projets à venir, quels qu'ils soient. Je suivrai la suite de ton parcours avec évidemment beaucoup d'intérêt et d'affection. Et voilà, je te dis à très bientôt Maud. Merci encore d'avoir pris le temps de nous faire partager cette course épique.
Merci à toi. Ciao, ciao, à bientôt.
Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à nous mettre le max d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci, et à très bientôt pour un nouvel épisode de Course Épique.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.